Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Alors, une émission un peu particulière ce soir, car je me retrouve seul aux manettes. Pascal Essérick et Philippe Christel sont exceptionnellement absents, mais vous les retrouverez, je pense, le mois prochain. Mais je vais être bien entouré car nous avons dans les studios trois invités pour parler d'un thème qui nous paraît être de plus en plus d'actualité, l'écologie. L'écologie peut-elle être encore de gauche? Pour les observateurs politiques, on s'aperçoit que le monde des Verts est de moins en moins concerné par les grands principes écologiques. Pire, il y a de véritables fractures. L'une des dernières, la prise de position de José Bové contre la GPA. Les Verts ont clairement pris position sur le sociétal, mariage pour tous, PMA, GPA, sans papier. Et chaque fois qu'il y a un vrai tournant écologique, comme à l'époque par exemple d'Antoine Vechter, la gauche du parti a su éjecter les gêneurs. Alors pour en parler ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe du journal Élément. Un tiers à peu près, parce que c'est une grande équipe. J'ai dans le studio François Bousquet, essayiste et journaliste à la revue Léman, ex aussi Spectacle du Monde.
Oui, ex, on peut le dire.
Bonsoir François. Bonsoir Olivier Patrick. François, journaliste à la revue Élément.
Bonsoir.
Xavier Aimant, chroniqueur et journaliste à la revue Élément et à l'excellente revue Le Livre Arbitre.
Bonsoir.
Bonsoir Xavier. Alors, l'universitaire, j'ai trouvé ça aujourd'hui, hein, faire un peu d'actualité. L'universitaire Stéphane François, qui a été interviewé pour l'un de ses livres sur l'écologie, expliquait qu'on a un peu trop oublié que l'imaginaire de l'écologie politique est plutôt conservateur. La vie naturelle contre les vices de la vie urbaine. L'ordre harmonieux de la nature contre l'idéologie du progrès. L'esthétisme des communautés rurales ou traditionnelles contre la laideur de la société industrielle. L'enracinement contre l'atomisme. Les petites communautés contre la mégalopole. François Bousquet, ces valeurs, est-ce qu'elles sont compatibles avec la gauche ?
Fondamentalement non, mais depuis 40 ans, l'écologie a été monopolisée par la gauche avec la passivité de la droite. Il y a un mot de Ramu, mais c'est une boutade, même si Ramu était assez peu porté sur la blague avec son vieux fond protestant. C'est la nature est de droite. On peut la poser sous une forme interrogative. Elle est fondamentalement pas de droite. C'est la projection, comme vous le disiez, du fond légitimiste, organiciste. Moi, je pense surtout agrarien. S'il y a un courant conservateur qui a été proto-écologique, qui a porté une écologie informelle tout au long, en tout cas dans la seconde moitié du 19e siècle et jusqu'à Vichy, c'est les agrariens qui ont pensé en effet l'ordre éternel des champs et par projection l'ordre éternel de la nature porté par un dieu rustique. Pour autant, comme je le disais en préambule, l'écologie depuis 40 ans a été, depuis qu'elle est devenue politique, c'est Bertrand de Jouvenel malheureusement qui a eu cette idée d'écologie politique. Il fallait faire l'inverse, je pense. Il fallait politiser, il fallait écologiser la politique et non pas politiser l'écologie. Mais depuis que René Dumont s'est présenté à la présidentielle en 1974, l'écologie est résolument de gauche, avec toutes les contradictions que vous souleviez et sur lesquelles nous reviendrons dans le courant de l'émission.
Peut-être un mot, Bertrand Jouvenel, qui a un parcours quand même pas du tout de gauche, lui.
Non, mais pas non plus typiquement et classique. C'est un essayiste. C'était une blague et une boutade, le mot de Ramu. L'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Il faut aller à la fois révolutionnaire et réactionnaire. Elle est réactionnaire parce qu'il faut évidemment interroger le passé, interroger la façon dont les anciens concevaient la limite. Mais comme les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont absolument inédits, elle est aussi révolutionnaire. J'aime énormément le mot de Luther définissant l'humanité comme un homme apaisant ivre sur un cheval. Quand il se renverse sur la gauche et qu'on le redresse, il tombe sur la droite. Fondamentalement, l'écologie ne peut pas être ni de droite ni de gauche. L'écologie, par définition, c'est une quête de l'équilibre.
Notons d'ailleurs que Bertrand Jouvenel était issu en partie aussi des milieux non conformistes des années 30, qui sont insituables et qui essayaient de dépasser ces notions de droite et de gauche et parfois même de faire la synthèse des critiques de la modernité libérale, technicienne, industrielle, capitaliste, en prenant à la fois à droite et à gauche, puisque quelqu'un comme, par exemple, Emmanuel Mounier, le premier Mounier, je précise, dans les années 30, se réclamait autant d'une certaine pensée de droite, mais aussi d'une pensée de gauche, alors même si on y reviendra dans l'émission, le premier socialisme n'était pas de gauche, mais Mounier se réclamait autant de Joseph de Metz qu'il citait que de Proudhon. C'est la phrase de Maritain aussi qui dit il faut réconcilier Lamennais et Joseph de Maistre. Donc en effet, cette critique de la modernité qui est à mon avis au centre aussi de l'écologie, on y reviendra, n'est ni de droite ni de gauche, est ailleurs.
Pour simplement, il y a quand même une erreur massive, il y a une amnésie massive de la droite depuis 40 ans. Olivier François citait les non-conformistes des années 30, hein, mais la droite dont nous procédons et dont nos origines nous situent plutôt à droite, hein, on a totalement oublié le courant agrarien. Vichy a tué, je pense, l'écologie, a tué l'écologie à droite, hein, puisque le courant agrarien, pour mémoire, ce que Olivier disait, c'était déjà ni droite ni gauche, hein, sauf que les frontières se définissaient autrement. C'était ni capitalisme ni socialisme, hein. C'était sur fond d'église catholique, hein. Ça a été porté jusqu'à la corporation paysanne, hein. Le père d'Emmanuel Leroy Ladurie a été ministre de l'agriculture de Vichy avant de devenir résistant, et c'est à ce moment-là où ça meurt, où on passe de la corporation paysanne à la FNSEA. Mais toutes nos campagnes étaient, moi, ce que j'appelle l'écologie informelle, hein. C'est une écologie qui s'était pas définie, qui était pas définie clairement, qui était pas pensée, qui était pas conceptualisée, mais c'était l'ordre éternel des champs, ce qui est de l'ordre agrarien, quoi.
Évidemment.
Oui, alors moi, ce qui me pose problème dans un peu la question qui est posée ce soir, c'est un problème de définition. Parce que l'écologie est-elle de gauche? Ça dépend de quelle gauche on parle et de quelle droite on...
Ou est-ce qu'elle, ou disons, est-ce qu'elle est compatible avec l'idée de gauche?
Voilà, c'est un peu compliqué parce que, encore une fois, ça dépend vraiment de quelle gauche on parle, de quelle droite. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, comme vous l'avez dit en introduction, par rapport au mouvement politique qui se revendique de l'écologie... on sent que l'écologie est en train de leur échapper, mais elle n'en devient pas pour autant de droite, puisque les partis qui se revendiquent eux de la droite ne s'y intéressent pas plus que par le passé.
Même moins,
parce qu'en effet, c'est un problème. Vous disiez que c'est un problème d'actualité, c'est un problème fondamental. Mais est-ce que c'est vraiment aujourd'hui encore un problème d'actualité? J'ai pas tellement l'impression. En tout cas, dans les programmes politiques et dans les discours politiques, on a eu il y a quelques années, on a beaucoup parlé de l'écologie. Il y a eu le Grenelle de l'environnement, etc. Aujourd'hui, on voit bien que c'est quand même c'est un peu disparu du débat. Et des perspectives politiques des uns et des autres.
Ouais, la crise est passée par là. On est confronté à un échec massif de l'écologie. Il faut l'interroger, cet échec, hein. À droite, il est manifeste, hein. Moi, la question qui m'intéresse presque plus en un sens que pourquoi est-ce que l'écologie demeure ou pas de gauche, avec les réserves soulevées que par Xavier Aimant, en l'occurrence, en effet, quelle gauche et quelle droite, hein, c'est la façon dont la droite a totalement l'écologie est sortie de ses écrans radars, hein.
Alors, notons malgré tout, parce que c'est un mouvement assez récent, même s'il reste marginal, au sein des gens issus, on va dire, de la Manif pour tous et d'un certain catholicisme traditionnel, donc de droite, il y a eu un texte notamment d'un certain Gauthier Besdebert qui s'appelle Nos limites, qui est tout à fait intéressant, où on voit que ce jeune catholique de droite cite des auteurs comme Gunther Anders, comme Ellul, comme Bernard Charbonneau, etc. Donc ça, il y a quelque chose d'un peu inédit dans ces milieux-là, une réflexion un peu sérieuse sur les questions écologiques. Alors, seront-ils rattrapés par leur sociologie, qui est essentiellement une sociologie bourgeoise, et ce sont des gens qui sont habitués à voter massivement, en tout cas leurs parents, pour l'UMP ou pour Nicolas Dupont-Aignan, qui n'est pas particulièrement écologiste, ou pour cette droite Figaro,
ou le Front National,
pour le Front National. Notons par ailleurs que le Front National a commencé, Dieu merci d'ailleurs, une réflexion sur l'écologie. Il parle maintenant d'une écologie patriote, etc. Ce qui était assez inédit, hein. C'était pas du tout le cas dans les années 80 ou 90. Mais bon, il faut dire que malgré tout, il y a une petite réflexion à droite. Ça reste des intellectuels, évidemment, mais sur l'écologie. Bon, d'ailleurs, Éléments en témoigne.
Non, mais Éléments, Alain de Benoît, simplement politiquement, ça n'a pas de traduction politique, hein. Ça n'a pas de place dans l'espace politique, hein. La droite est mutante, hein. Totalement américanisé. J'ai en tête le Sarah Palin à la dernière présidentielle américaine. Le mot d'ordre des partisans de Sarah Palin, c'était je le dis en anglais, mais c'est drill, baby drill. C'est fort, fort bébé, fort. Hein. Il s'agissait donc de multiplier les puits de gaz de schiste, hein, et les extractions de pétrole en Alaska et ailleurs. Hein. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment, même si comme le dit dit Olivier, il y a de plus en plus de voix. On a une voix auquel nous sommes, je crois, chacun d'entre nous ici très sensible, c'est de Falk Van Gelver, qui porte une décroissance catholique. L'Église, depuis Jean-Paul II, est mobilisée sur ces thématiques-là. Elle porte même l'écologie humaine, qui est peut-être un chapitre qui est le trou noir, le point aveugle de l'écologie politique de gauche. Mais on y reviendra. Pour autant, le Front National revient de loin. À l'époque de Bruno Maigret, il y avait une revue qui s'appelait Identité, qui avait consacré un numéro à l'écologie enracinée, qui est sûrement ce qu'on a fait de mieux à droite depuis que la thématique écologique est dans le circuit, dans le débat.
Justement, prenons cette idée de décroissance, parce que effectivement il n'y a pas d'écologie de droite, mais en 2007, Alain de Benoist sort son livre « Demain la décroissance, penser l'écologie jusqu'au bout », va suivre une pétition contre lui, une partie de la mouvance décroissante radicale de gauche va lui tomber dessus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses changent. Je voudrais simplement, l'un des théoriciens français de la décroissance, Serge Latouche, expliquer dans un entretien, si on lui demandait si la décroissance était de droite ou de gauche, et il disait: pour moi elle est à gauche, mais le débat est biaisé, comme le dit Jean-Claude Michéa. Finalement, ne faut-il pas abandonner la dichotomie droite-gauche qui tient à notre histoire? Par exemple, dois-je interdire à Alain de Benoist de se revendiquer de la décroissance sous prétexte qu'il serait classé à droite? Ça, c'est un changement qui se passe. Il y a des intellectuels qui maintenant acceptent que des gens de droite pensent l'écologie.
Il y en a peu. Il y en a peu, parce que le mouvement de la décroissance, c'est notamment le journal qui le représente, qui s'appelle La Décroissance ou La Joie de...
Le sous-titré La Joie de vivre.
Ils sont pas très joyeux, souvent.
C'est pas très joyeux.
A très longtemps consacré presque la moitié de ses colonnes à, au contraire, dénoncer tous les gens qui n'étaient pas issus de la gauche et qui se permettaient d'évoquer les questions écologiques ou les questions de décroissance. Donc il y a dans ces mouvements en effet des gens ouverts comme Serge Latouche, mais il y a aussi beaucoup de gens extrêmement sectaires qui sont terrorisés justement par l'idée qu'on puisse les considérer comme des conservateurs ou des gens attachés à des valeurs ancestrales, etc. Parce qu'ils voient bien que ça les conduit vers cela, mais ils ne veulent pas parce qu'ils sont issus de la gauche. Donc ils sont un peu dans une position schizophrénique, et donc pour se dédouaner, ils passent leur temps, mais il y a eu des articles complètement... souvent extrêmement délirant, avec des gens qui disaient mais de tout, non, on n'a pas lu ce que Alain de Benoist avait écrit sur la décroissance, par exemple, mais de toute façon on ne le lira jamais parce qu'il est issu d'un milieu qui n'est pas le nôtre. Donc il y a quand même beaucoup d'aspects sectaires, malheureusement, malgré les quelques bonnes volontés qui existent.
Vous pensez à Vincent Chesnais, qui a pourtant écrit un excellent livre récemment sur la décroissance, aux éditions du Pas de Côté, où il semble avancer sur des positions où il assume même une certaine logique réactionnaire. Mais il faut savoir que Vincent Chesnais est un ancien publicitaire, donc il dirige sa revue comme un ancien publicitaire, il a ses cibles, en quelque sorte, et dans la décroissance, il y a beaucoup d'abonnés du Front de Gauche, etc., et comme il faut qu'il fasse un peu de marketing, comme c'est un ancien publicitaire, ce Vincent Chesnais, donc il n'a pas toute liberté pour s'ouvrir autant que nous voudrions qu'il s'ouvre.
On a le droit, je veux dire, d'avoir pensé qu'il ait été publicitaire, on le sait, puisqu'il est derrière casseur de pub et autres. Moi, je pense que c'est sans retour, la question que vous nous posiez. En l'occurrence, c'est éventuellement une ouverture. Latouche est penché sur courant alternatif. Donc, j'attends de voir. Je demande un droit de suite pour voir s'il persévère dans. Mais pour Chesnais, Clémentin, Ariès, les gens qui sont derrière la décroissance, la joie de vivre, c'est des gens. Ils nous ont adressé depuis 10 ans une fin de non recevoir. Sectaires, moi, c'est des cathares, c'est des purs. Ils veulent avoir raison. Il faut se méfier des purs. Il y a toujours un non-dit, il y a toujours un refoulé. Le refoulé n'est pas toujours très propre. Ils sont, comme le disait Xavier et moi, ils sont terrorisés. Mars, on a accepté de manger avec le diable avec une longue cuillère, mais eux, non. C'est Alain de Benoist, c'est pas concevable.
Disons qu'effectivement, Alain de Benoist, c'est le diable. Mais si on va au bout de leurs idées, et quand effectivement Olivier François parlait de son livre, dans son dernier livre, effectivement, Décroissance ou décadence, il explique, et je le cite, il parle du mariage pour tous. Il dit, il s'agissait beaucoup moins pour la gauche de lutter contre l'homophobie que de déstabiliser un peu plus tout ce qui, dans l'organisation familiale existante, fait encore obstacle au déchaînement des rapports marchands. La famille est en effet l'une des dernières institutions où la logique du don prend encore le pas sur l'échange économique. Je vais vous dire, ça, les organisateurs de la Manif pour tous, ils signent dès demain.
Oui, non, il y a une nouveauté, il était temps. Hein,
c'est nouveau.
Disons que la contradiction culturelle de l'écologie politique n'est pas assumable. Hein, c'est qu'on ne peut pas être d'une part contre les OGM et être pour ces OGM d'un genre nouveau que sont les trans, qu'est la procréation médicalement assistée. Donc il était temps, enfin Beauvais l'a fait. Pour autant, je vous rappelle, je trouve qu'il relève énormément des analyses de Murray, moi, l'écologie politique, les Verts, enfin Europe Écologie, les Verts. C'est Homo Festivus Ecologicus. Hein. En tant que journaliste, j'avais dû faire un papier sur l'université d'été des Verts à Toulouse. C'était il y a 5-6 ans. C'était fascinant. Les ateliers étaient fascinants. La soirée de clôture, c'était une soirée dansante, moitié musique occitane, moitié musique Wolof. Hein. Je pense qu'on peut plus les raisonner. Ils sont partis dans un délire. Alors certes, ils peuvent le corriger sur la contradiction, mais la droite, notez que la droite a confronté la même contradiction. Elle est contre ces organismes sexuellement modifiés, que sont les trans, hein, et elle est massivement pour les OGM, hein, que dans le Figaro, dans le Valeurs Actuelles. Hein. Donc à droite et à gauche, on a toujours ces points morts, ces points aveugles, hein, ces angles morts, hein, qui sont pas prêts, moi, à mon sens, d'être levés. Mais je suis plutôt pessimiste. Donc,
je pense que c'est aussi un problème de culture politique. C'est que cette gauche écologique, cette gauche alternative n'a plus de culture de droite, n'a plus de culture de droite intelligente qu'elle pourrait avoir pour dialoguer peut-être. Et la droite, évidemment, on sait, a été tellement, c'est une droite d'énarques ou d'élèves d'école de commerce. Enfin, je peux avoir de l'estime pour eux. Mais enfin, on leur cite Bernard Charbonneau et lui, ils ne connaissent pas et ça les intéresse pas. Il faut savoir d'ailleurs Charbonneau à l'époque, qui plutôt lui est un homme venant du personnalisme de gauche, lisait Gustave Thibon, pouvait lire Maurras, ça ne le dérangeait pas de dialoguer avec cette pensée-là.
C'est capital, cette perte de la culture politique. Hein. Je pense que le dernier personnage politique, hors Mélenchon et Patrick Buisson, c'était Jean-Marie Le Pen, qui portait une culture politique de droite et de gauche, hein, qui avait une culture historique. On l'a plus aujourd'hui, donc on leur a tellement dit, c'est un mécanisme salivaire en fait. Hein, ils ont été pavlovisés. On leur a dit que Alain de Benoît, le Front National, la droite, et donc comme les chiens de Pavlov, ils produisent de la mécanique de rage salivaire. Hein.
On s'aperçoit chez les Verts que les grandes idées même de gauche, le localisme, la décroissance, et on voit bien, vous parliez de l'université d'été des Verts, il y a eu un très bon article de Daoud Borzala dans Causeur qui expliquait clairement que ces grands thèmes étaient quasiment plus, on n'en parlait plus. Et on s'aperçoit même dans le personnel politique des Verts que des gens comme Yves Cochet, Lipietz sont un peu sur la touche. On met en avant, c'est les gens Vincent Placé, la petite blonde de l'Assemblée, la Barbara Pompili, ou Céline Duflo. Xavier Aymon, sur le plan, même si il n'y a pas peu d'écologie à droite, est-ce que vous êtes aussi pessimiste sur l'écologie de gauche?
C'est un peu difficile d'être optimiste sur cette question. Moi, je crois que le problème à droite, c'est qu'il y a un diktat absolu de l'économie sur toute pensée politique. C'est-à-dire que quoi qu'ils prétendent, quoi qu'ils disent, c'est toujours, en fin de compte, l'économie qui va l'emporter. Donc, s'il y a une opposition entre une question économique et une question écologique, c'est les questions économiques qui l'emportera. Et à gauche, il y a un autre diktat, qui est celui de l'espèce de moraline, espèce de pensée qui reste internationaliste et finalement mondialiste d'une certaine façon, altermondialiste mais mondialiste, qui empêche les gens de gauche de penser l'écologie jusqu'au bout. Et c'est notamment là qu'on arrive au principal point d'achoppement pour moi des écologistes, c'est le fait qu'ils ne pensent absolument pas l'écologie humaine, et notamment les problématiques écologiques liées à l'immigration. Ils restent très majoritairement, voire totalement pro-immigration, sans du tout intégrer ce problème fondamental à leur réflexion générale sur l'écologie. Donc, d'un côté comme de l'autre, je vois pas beaucoup, en effet, de choses positives. Après, c'est vrai qu'il y a des côtés très ridicules, souvent, chez les écologistes, et les côtés un peu excipi sur le retour, etc. Mais j'apprécie très peu, en fait, cette habitude à droite de se moquer de ces gens-là. Parce qu'en fait, c'est toujours pour justifier, en fait.
C'est une âme charitable, Xavier.
Pour justifier le fait de soit rouler en 4x4, de n'avoir rien à foutre de son environnement, qu'il soit visuel, ou, etc. Donc c'est toujours, en fait, une auto-justification. Donc en effet, moi, j'ai plutôt toujours une sympathie pour des gens qui essaient d'avoir des modes de vie alternatifs, même si parfois ça frôle le ridicule, plutôt que ces gens qui se gobergent d'un système qui est en train de tuer notre civilisation et notre peuple.
Autre incompatibilité, c'est par rapport au libéralisme économique. Aujourd'hui, les Verts et on le voit encore plus chez les Verts allemands, ils sont entièrement rentrés dans le système libéral et capitaliste.
Ouais. Puis on le voit sur cet homme politique mutant qui est Cohn-Bendit, franco-allemand.
Oui, c'est lui qui a influencé au moins.
Disons que vous les citiez, je ne sais plus qui les citait, Lipietz, Cochet, tous ces gens-là, enfin qui ne sont pas sur ces positions-là. Pour autant, moi, j'en reviens pour les avoir côtoyés, enfin assister à pas mal de conférences de ces gens-là. Un de leurs problèmes, c'est ils sont intimidés par les femmes. C'est fascinant comment Cochet. Non mais ça a l'air.
Si vous le dites.
Cochet est totalement. Mais j'aime beaucoup Cochet. Mais c'est un homme émasculé. Il est totalement émasculé. Il est terrorisé à l'idée d'être.
Je sais si au Vert il y a des viragos. Des viragos difficiles.
Moi j'ai vu des débats entre Voynet et Cochet. Le pauvre, il est Voynet, la maîtresse d'école. Hein. Donc qu'attendre de ces gens-là. J'aime beaucoup comme on parle de. On cite un des problèmes de la droite, c'est que la quantité de référents. On peut les qualifier d'écologiques ou de proto-écologiques ou de pré-écologiques, hein, qu'elle ne lit pas. Moi, j'aime beaucoup la régression de Conrad Lorenz. On lit plus du tout Conrad Lorenz aujourd'hui. Il a écrit il y a 40 ans un livre, moi, que je trouve remarquable, mal traduit malheureusement, c'est Lui, péché, capitaux, notre civilisation. On devrait le relire, mais ce qu'il dit, moi, est très intéressant, je trouve, que ça s'applique. C'est très pertinent sur les Verts. Il dit qu'un des gros problèmes de notre civilisation, c'est notre hypersensibilité à la souffrance. Hein. Dès qu'il y a un problème, on crée une cellule psychologique, etc. Et il s'appuyait sur ses travaux, ses comparaisons entre l'animal domestique et l'homme. Il trouvait que l'homme ressemblait de plus en plus à l'animal domestique. Alors, qu'est-ce qui définit l'animal domestique, selon Conrad Lorenz? C'est une pathologie, une tendance à l'obésité, hyper-narcissisme, infantilisme et dérèglement. Et je trouve que ça s'applique étonnamment aux Verts. Les Verts ne veulent pas penser, comme le disait Xavier Mann, ne veulent pas penser la. C'est ce que disait Robert Hénard, c'est que j'attends les Verts, moi, au tournant, quand ils aborderont la question des espèces. Hein. C'est que la frontière s'arrête, on doit relocaliser, on doit reterritorialiser, on doit sanctuariser plein de territoires, hein, faire des réserves naturelles, sauf pour l'espèce humaine, sauf pour l'écologie humaine. Hein. Là, à l'homme, c'est l'homme est offshore. Hein. Comme.
Hors sol.
On doit manger du bio, j'adhère pleinement, mais le bio passe par une relocalisation de l'humain dans ses terroirs. Hein.
Oui, c'est fascinant cette angoisse. Bon. Ouais. Notamment, ils reprennent souvent donc le vieux slogan vivre et travailler au pays. Sauf que comme ils ont dû trouver que ça faisait un peu pétainiste, ils ont ajouté vivre et travailler au pays de son choix. C'est-à-dire pour quand même laisser la porte ouverte aux migrations, aux gens, que les gens puissent être trimballés d'un endroit à l'autre comme si c'était sans conséquence, etc. Donc il faut toujours qu'ils se défendent contre toute velléité de penser l'immigration autrement que dans le laisser-faire, laisser-aller, qu'ils combattent, comme le disait François Bousquet, dans tous les autres domaines. C'est-à-dire ils sont anti-libéraux pour tout, sauf pour ça.
Ouais. Et jusqu'à la caricature.
Délirant.
Le localisme, pour eux, c'est quasiment les fruits et légumes, et ça s'arrête là.
Voilà, c'est les fruits et légumes, en effet, mais pour le reste, pour l'espèce humaine, dans l'écologie humaine, ça va rentrer dans leur logiciel encore.
C'est la même contradiction qu'on trouve chez nous. Certains cinéastes de gauche qui défendent la préférence nationale quand il s'agit de leur cinéma et de leurs produits culturels, enfin de leurs œuvres, et qui sont les premiers à manifester du soutien à n'importe quel étrangers sans papier. Enfin, moi, je suis touché aussi très marqué par la schizophrénie de nos modernes. Elle est tellement évidente. Ouais, c'est-à-dire qu'on est un écologie radicale qui passe sur son BlackBerry un quart de son temps la journée à tweeter des citations de Anders ou de Benoît XVI.
Il est difficile d'échapper à la schizophrénie, malheureusement. C'est le... le père de l'ethnopsychanalyse, Georges Devereux, disait que c'était le grand mal de notre civilisation. C'est qu'on avait tous 10 allégeances différentes, hein, différentes, plein d'assignations. Donc le mieux étant l'ennemi du bien, il n'est pas interdit d'avoir un téléphone portable.
Un peu d'humilité, c'est-à-dire soyons moins radicaux, mais essayons de l'être davantage dans notre vie quotidienne. Enfin, après, c'est un vaste sujet.
Un exemple d'éveillement concret, lorsque j'étais membre d'une AMAP parisienne, classique, donc l'AMAP, l'association de maintien pour de l'agriculture paysanne, quand j'allais chercher mon panier de fruits et légumes bio, je recevais souvent des tracts, et je pouvais ainsi recevoir le même jour un tract demandant l'arrêt des flux, le contrôle des flux de capitaux, le contrôle des marchandises en matière de nourriture, etc. Et à côté, un appel à manifester pour la légalisation des clandestins et l'ouverture générale des frontières. Et quand j'essayais discrètement d'en parler avec la personne sympathique au demeurant qui me disait ces tracts, je voyais bien que c'était pas la peine de parler parce que il ne concevait pas en quoi il pouvait y avoir une opposition entre les deux. Ça dépassait leur capacité, leur logique. Il y a quelque chose que j'ai jamais réussi à comprendre dans cette façon de penser, et ils étaient absolument pas gênés de cette problématique. Donc c'est d'ailleurs pour ça que plus tard nous avions essayé avec des camarades de monter une AMAP que l'on pourra qualifier, pour la simplicité du débat, de droite, pour essayer d'échapper un peu à ces scories gauchistes qui me paraissaient tellement délirantes.
On a l'impression que toutes les grandes idées, quand on se plonge chez les personnes, on en parlera, hein, on pourrait parler des pères de l'écologie, on s'aperçoit que les définitions sont jamais les mêmes. Quand on parle on parlait tout à l'heure de décroissance, et je lisais ça dans la revue Éléments, et je crois que c'est un article de vous, François, sur le fameux rapport du Club de Rome qui a été publié en 72. En fait, on s'aperçoit que à l'époque, ils parlent pas de décroissance, ils parlent de stagnation de la croissance. Mais l'idée de décroissance, c'est pas ça. On a l'impression que l'idée de décroissance, quand on l'explique, c'est le contraire de la croissance, et c'est pas la définition de la décroissance.
Ouais, disons que pour le Club de Rome, la notion, j'ose pas dire le concept, mais la notion de décroissance, c'était pas, je crois pas qu'elle avait vu le jour. Hein. Sauf faire de ma part, c'est les traducteurs de Nicolas Georgescu-Rogan, et pas Nicolas Georgescu-Rogan, qui ont introduit dans un recueil d'articles qui est un économiste roumain, naturaliste américain, et qui est un peu le père scientifique de la décroissance, hein. C'est eux, c'est Jacques Bain, j'ai plus l'autre nom en tête. Hein. Et pour le Club de Rome, oui, ils visaient une croissance zéro, c'est-à-dire un arrêt de la croissance. Mais cela étant, les travaux du Club de Rome, moi, sont passionnants. Ça a été, aujourd'hui, c'est brocardé. Ça a été remis à jour à deux reprises, des travaux du Club de Rome, hein, par les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, je crois. Et ils prédisent la fin de l'économie monde pour la fin du 21e siècle. Hein. Jusqu'à présent, rien ne peut dire qu'ils se sont ou pas trompés, quoi. Mais vous vouliez savoir ce que c'est que la décroissance, hein,
je vais juste.
Parce que les gens le savent, mais.
Rappeler, parce qu'il y a certains auditeurs parfois qui allument leur radio et ne savent pas sur la radio, et nous sommes bien sur Radio Courtoisie, et nous parlons de l'écologie avec François Bousquet, Olivier François et Xavier Aimant de la revue Éléments. Oui, sur cette décroissance, c'est vrai que Nicolas Georgescu-Rogan ne parle pas de décroissance, mais lui, il expliquait qu'il fallait, en fait, sa grande idée, c'est que l'économie ne soit plus au centre de la société.
En un sens, oui. Disons que ça, c'était dans les conclusions de sa constatation. C'est une démarche scientifique au départ. La démarche de Nicolas Georgescu-Rogan, elle sera reprise par les économistes. Hein. Il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Il s'appuyait sur la loi de l'entropie. Je fais mon singe savant, je ne suis pas physicien, mais je me suis un tout petit peu intéressé au sujet. Il s'appuyait sur la seconde loi de la thermodynamique. La première loi dit qu'on ne crée pas de l'énergie, on la transforme. Hein. La seconde loi dit qu'on la transforme, certes, mais en la transformant, la qualité de cette énergie, il y a une déperdition, merci Patrick, hein, une déperdition de cette énergie qui nourrit l'entropie. L'entropie, c'est quoi? C'est le désordre. Hein. Comment se traduit en termes écologiques le désordre? Par un surcroît d'effet de serre, dans l'atmosphère. Hein. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à penser penser la décroissance. Mais la décroissance, elle s'appuie sur un vieux front franciscain de frugalité, de consommation raisonnable, hein, et de réintroduction de l'esprit de la limite. Hein. il y a un outil écologique qui, pour grosse, il est assez grossier, certes, mais un outil de mesure, pardon, c'est l'empreinte écologique. Hein. Si on s'en tient au mode de vie américain, l'empreinte écologique, c'est le niveau de ressources que chaque individu ou chaque population a besoin pour se nourrir et vivre, hein, c'est-à-dire les terres arables, c'est-à-dire les vaches pour produire du lait, les poissons, etc. Si l'humanité se mettait au régime américain, au régime de l'homo adipus américain, il faudrait 9 terres. Hein. C'est manifestement le chemin vers lequel nous nous dirigeons. Donc la décroissance intervient dans ce contexte-là de surpression du prélèvement humain sur l'écosystème terrestre.
Hein. François Bousquet parle du sens des limites d'un certain esprit franciscain. Moi, ce qui me semble notable dans la pensée écologique décroissante, on va le dire, et parmi ses précurseurs, je pense à Ivan Illich, c'est qu'Ivan Illich fait une critique radicale aussi du terme de valeur pour calculer et mesurer ce que c'est qu'une société bonne. Et il va réhabiliter quelque chose de très médiéval, c'est la recherche du bien-vivre, au sens quelle est la fin bonne d'une société humaine. Alors que depuis le 19e siècle, et on peut même remonter un peu plus loin, c'est ce que René Guénon parlera plus tard en 46 du règne de la quantité, on a une vision complètement quantitativiste de l'économie et des sociétés. Et Illich dit non, l'économie, ça doit aussi résonner avec des valeurs humaines, spirituelles. D'ailleurs, il n'emploie plus le mot de valeur, surtout le Illich de la fin. Il redevient d'ailleurs un penseur presque médiéval. Il revient en catégorie médiévale. L'économie, oui, mais pour quelle fin? Pour quelle fin spirituelle? Pour quelle fin intellectuelle? Est-ce que c'est une économie qui va s'enraciner aussi dans l'histoire d'un pays, dans son passé? Est-ce qu'on aura une économie globale qui vaudra pour les Africains, les Asiatiques, les Américains au nom d'une sorte d'humanité mondialisée? Et ça, je trouve ça, c'est très, très intéressant. Et pour nos auditeurs, je pense qu'il faut mettre l'accent sur cette question. La décroissance, même si la défense des animaux, des terres est importante, c'est aussi une volonté de décoloniser notre imaginaire, mais de retrouver aussi ce sens traditionnel des choses, et non pas simplement de les calculer.
Et là, on voit immédiatement la difficulté d'une traduction politique de la décroissance, parce que la décroissance, c'est véritablement, en effet, un concept révolutionnaire, à la fois économique, mais en effet aussi philosophique, et qui va à l'encontre de la véritable religion qui nous est imposée depuis 40 ans, qui est celle de la croissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul homme politique de premier plan qui vous explique qu'il y a une autre solution à la crise dans laquelle nous sommes que la croissance. Donc quand vous arrivez avec le concept de décroissance, vous passez en général tout d'abord pour un fou, ensuite pour un joyeux utopiste, et en troisième temps à quelqu'un qui veut revenir à la bougie et laisser en plus les peuples du sud crever de faim pour pas qu'ils justement ils puissent se développer et poser des problèmes écologiques. Donc c'est vraiment très délicat, et c'est pour ça que pour l'instant la décroissance a du mal à sortir de la marginalité et n'a pas beaucoup d'écho, même au sein des mouvements dits écologistes, qui disent non, c'est trop radical, il vaut mieux remplacer ça par cette aberration que la croissance verte ou je sais pas quoi, c'est ces nouveaux concepts qu'on essaie de nous vendre qui sont
Développement durable,
etc. Et est-ce que c'est en effet un changement complet de paradigme de notre façon de voir le monde, de notre façon, comme le disait Olivier François, de concevoir la finalité de nos jours, qui n'est plus l'accumulation, mais autre chose, parce qu'encore une fois, la décroissance, c'est pas le retour à la misère, c'est pas le retour, c'est voir ce qui est bon et ce qui est mauvais, faire un tri. J'ai entendu par le passé François Bousquet parler de plutôt que de décroissance, de croissance qualitative.
Je te laisse finir. C'est que la décroissance, comme l'écologie, est confrontée à un échec politique massif. Hein. La joie de vivre, on voulait créer un parti politique, c'est traduit par des échecs au municipal à Lyon, je crois.
0,2.
Donc c'est essayer de moi, je plaidais, je prêchais pour un maintien du mot décroissance. Hein. Simplement, il y a ce préfixe qui semble embarrassant. Il dans des oreilles familières à l'univers franciscain, aux auteurs sapientio, on n'est pas insensible à ce terme. Et manifestement, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence récemment de Xavier Aimant, et j'ai vu l'effet sur l'insistance du mot de décroissance. Hein. Ça a suscité pas manifestement l'enthousiasme.
Hein. C'est connoté négativement.
C'est connoté négativement. Donc peut-être qu'il faudra repenser le mot de décroissance, parce que ce qui m'intrigue, c'est pas ce qui m'intrigue, ce qui m'inquiète, hein, c'est l'échec complet de l'écologie. Tu parles de révolution. Moi, je rejoins plus plus Olivier François, c'est une conversion, c'est une révolution spirituelle. Hein. C'est ça l'écologie, le mot d'Heidegger, c'est seul un Dieu nous sauvera, c'est seule une religion nous sauvera. Ou comme tu le disais, un changement de paradigme.
Hein. Mais conversion du regard. Alors après, faut se méfier aussi du terme conversion parce que ça permet de ne pas trop s'engager sur d'autres questions.
Ah moi, je,
la conversion du regard, c'est
moi,
intéressant.
J'y tiens parce que
mais je pense que non, c'est important
de
parler de ces conversions.
J'y tiens,
mais,
ouais. Il faut toute proportion gardée et toute prétention mise à part. Il faut choisir ses exemples le plus haut possible. Hein. Moi, j'étais plutôt un homme de droite classique et nettement anti-écologique. Hein. Donc c'est passé chez moi par une conversion au sens de, du paradigme de la conversion, c'est saint Paul. Hein. C'est toute proportion gardée. C'est pourquoi me persécutes-tu ? Moi, c'est ce que la nature, les anciens m'ont dit. Donc moi, je tiens à ce mot de. Je vois pas comment il pourra l'être autrement. Sans conversion, on pourra jamais franchir le pas d'une autre société. Raison pour laquelle, je pense que c'est une raison pour laquelle on est confronté à un tel échec de l'écologie, de la décroissance.
Je comprends que vous expliquez avec le terme conversion, mais c'est vrai que le terme conversion a une connotation parfois un peu spiritualiste et très éloigné de la vie quotidienne. La conversion, c'est pas simplement aller la messe le dimanche, mais c'est chaque jour, en effet, regarder la nature et notre la ville aussi, notre vie non plus simplement comme un espace de consommation et de production, mais aussi comme un espace de où quelque chose est en jeu de l'ordre de la qualité.
Non, ça va de soi. Voilà. Simplement, c'est comme ça. Il est très difficile de faire passer le message de l'écologie. Je pense qu'il faut en appeler à une théologie de la décroissance. Hein. Il faut regarder du côté du religieux, du polythéisme ou du monothéisme, peu importe, des franciscains ou d'auteurs comme Giono. Sans ça, on n'arrivera pas à franchir le pas. Sans ça, le mantra de la croissance continuera de résonner en écho et en boucle dans nos oreilles. Hein.
Ça me paraît en effet fondamental, oui, parce que sinon, le risque aussi, c'est de tomber après dans un débat uniquement d'experts. C'est-à-dire, par exemple, comme sur les questions sur le réchauffement climatique. Vous allez avoir des experts de très haut niveau, d'un côté comme de l'autre, qui vont vous expliquer, là, les uns, que le réchauffement climatique existe, les autres que non, les uns, que le réchauffement climatique a des causes humaines. Et en fait, on va rester un plan technique qui sera peut-être pas forcément réglé immédiatement. Et donc, ça donne l'occasion à des gens, par exemple, de dire, ah ben, vous voyez, on a prouvé que le réchauffement climatique, ça n'existait pas, donc pourquoi changer notre mode de vie? Vous voyez bien qu'ils nous racontent n'importe quoi. C'est des bobards d'écolos, de fascistes écologistes, puisqu'on aime bien mettre du fascisme partout, de fascisme écologique qui veulent nous faire retourner à l'âge de pierre, etc. Donc, ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens, c'est que même au-delà des considérations, je dirais, techniques ou limitatives, pratique, il y a en effet cette vision importante de quelle vie voulons-nous, quel environnement quotidien voulons-nous et quel sens voulons-nous nous donner à notre chose. Et ça, c'est aussi important dans l'écologie que le fait d'éviter des catastrophes naturelles, etc. C'est vraiment les deux pendants de la pensée écologique. Il n'y a pas que ce catastrophisme en disant il va y avoir des tsunamis si on fait rien, etc. Ce qui a des chances d'arriver, ceci dit, mais il y a aussi vraiment une réflexion à avoir sur ce monde de la gabegie, ce monde de l'accumulation, ce monde où les gens s'ennuient tellement qu'ils n'existent plus qu'à travers leur démarche d'achat, etc. Et que c'est ça aussi, ça c'est de l'écologie. C'est de l'écologie mentale, c'est de l'écologie spirituelle, et c'est en effet tout aussi fondamental que les questions d'ordre technique qui sont importantes aussi, hein, je ne dis pas le contraire.
D'ailleurs, oui, je suis tout à fait d'accord, se méfier d'un certain catastrophisme abstrait qui éloigne aussi de notre vie quotidienne la question écologique, c'est-à-dire l'écologie, on peut voir les dégâts de notre système industriel et de notre société industrielle, on peut les voir en simplement se promenant dans les rues de Paris aujourd'hui, par la destruction d'un certain nombre de parcs, la disparition d'un café, etc. Ça peut paraître étonnant que je parle de la ville pour l'écologie, mais on voit très bien que chaque année, davantage, le système capitaliste industriel détruit des modes de vie, détruit des modes d'être, détruit des rapports humains, etc. Moi, j'ai l'exemple d'une station de sport d'hiver, qui est l'horrible le mot d'ailleurs, station de sport d'hiver, où je vais depuis ma plus tendre enfance et j'y suis retourné, j'avais des souvenirs des années, de la fin des années 80, j'y suis retourné récemment, c'était devenu absolument atroce, il y avait eu une sorte de résidence pour touristes qui s'était installée, la montagne était encore davantage râpée, etc. Et donc là, on peut l'éprouver par une expérience en se promenant dans une forêt bretonne, au Mont d'Arrée, par exemple, qui est encore des sortes de monts, de montagnes, enfin c'est oui, des monts au centre de la Bretagne, et qui chaque année disparaissent davantage par le déboisement, par la pollution, par le tourisme de masse, etc. Et ça, on peut le... Et donc c'est vrai que la catastrophe, à certains jours de la catastrophe, permet de parler de tsunami pour ne pas s'occuper de sa vie quotidienne et de ce qui change concrètement chaque année, ou voire parfois chaque mois dans notre vie quotidienne.
Non, mais c'est aussi une catastrophe, hein, ce temps de vieillissement du monde. Renaud Camus appelle ça la banlieuisation du monde.
Hein. Bien sûr.
C'est le cancer urbain qui, avec des paysages hybrides, hein, qui contamine. Tous les 10 ans, semble-t-il, un département français quasiment disparaît parce qu'il a été urbanisé, ce qui est considérable. Hein.
D'ailleurs, on peut signaler à ce titre-là une initiative intéressante et positive, pour le coup, c'est celle de la ville de Grenoble qui vient d'annoncer qu'elle allait supprimer l'affichage publicitaire dans les rues de la ville. Alors c'est une petite chose, mais moi je trouve que ça va dans le bon sens, et j'attends avec impatience que les villes tenues par le Front National appliquent cette même, qui est plutôt plus ma famille idéologique, applique cette très bonne mesure, voilà, qui est déjà une première étape d'écologie visuelle, parce qu'en effet on est agressé aussi par cette débauche de publicité. À Paris c'est totalement délirant, quoi. Maintenant il y a des écrans, il y a
des écrans plasma
avec évidemment des capteurs pour voir où vous regardez, pour ensuite améliorer les publicités, etc. Enfin, donc bravo aux élus de Grenoble.
Ouais, je pense qu'ils vont être contents que Xavier Aymon, sur Radio Courtoisie, les félicite pour effectivement cette très bonne initiative. On disait que la droite a été complètement absente du débat. Il va falloir attendre, je pense, les années 90 pour voir. Là, on pourrait rendre hommage à notre ami Laurent Ozon, qui a été l'un des premiers avec sa revue Recours aux forêts à parler d'écologie. Et j'ai l'impression que depuis, il n'y a plus rien. On a un peu parlé. Il a essayé de faire des colloques. Ouais. Il a fait connaître des gens comme Edouard Goldschmidt, etc. Mais j'ai l'impression que l'écologie à droite, même dans nos familles, il y a eu un moment, c'était un peu la mode. Et aujourd'hui,
sauf
les milieux et certains milieux catholiques. Faut quand même Falban de Gaveur, Gauthier Besdebec. Faut quand même citer ces noms qui font un travail d'ailleurs assez parallèle au travail d'Éléments. Ils vont les mêmes références, certains auteurs, avec leur évidemment leur vision catholique particulière. Mais Falban de Gaveur a écrit aux éditions de l'Homme Nouveau un texte quand même sur l'écologie chrétienne. Et encore une fois, le texte de Gauthier de Besdebec est un vrai texte de qualité. C'est quelqu'un issu de la Manif pour tous, je crois qu'il est d'ailleurs jeune normalien, un garçon très brillant, et qui cite autant Ellul, Charbonneau, qui a une vraie réflexion cohérente sur l'écologie, parce que il voit bien qu'il y a faut être à un moment donné, si on ne peut pas être contre les OGM, comme tu le disais, contre les OGM de maïs, et être pour les trans et la théorie du genre. Enfin, c'est quelqu'un de cohérent, Gauthier Besdebec. Donc nos limites aux éditions, je ne sais plus lesquelles, mais bon, il y a un effort qui est fait. Et puis, sans, évidemment, je ne vais pas citer, parce que je crois qu'on les connaît, dans nos éditeurs les connaissent, les travaux d'Alain de Benoît.
Identitaires, à leur début, s'étaient intéressés et avaient mis en avant les problématiques écologiques et localistes. Après, ils se sont plus concentrés sur d'autres problématiques.
Plus porteuses. Hein.
Voilà, ouais. Parce que, et en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un problème d'écho et de résonance. Les identitaires avaient organisé un colloque sur le localisme. Vous aviez 60 personnes. Deux semaines après, colloque sur assises de l'islamisation, je me souviens plus, enfin 500, 600, 700 personnes. Donc, au moment quand on fait de la politique, on voit aussi ce à quoi le peuple auquel on s'adresse est sensible. Et pour le coup, en effet, il n'y avait pas vraiment un intérêt chez les gens. Et c'est pas pour ça qu'il a fallu l'abandonner. D'ailleurs, ça reste dans leur discours. Hein. Je dis pas qu'ils ont abandonné la question de l'écologie, mais c'est quand même très en retrait aujourd'hui par rapport à ce que c'était à l'époque. Mais parce que, en temps de crise, les gens sont pas sensibles à ces questions-là. Ils pensent à justement, on va pas supprimer la publicité, parce que si la publicité, les gens consomment moins. Si on consomme moins, c'est moins de croissance. Donc, la crise va s'accentuer, etc. Le monde mantra de la croissance obsède tellement les gens qu'ils ont du mal à voir autre chose parce qu'ils ont peur que ça les atteigne au portefeuille.
On voit même d'ailleurs certains cadres du Front National défendre Center Parcs. C'est quand même le comble, hein. Un parc d'attractions ou de...
Pourtant, c'est un sujet... Il y a eu un gros succès avec la Malif pour tous. C'est un sujet qui était lié. On aurait pu lier et ça a été peu fait. Le seul qui s'est aperçu de la chose, c'est José Bové. Quand il a dit non, on peut pas. Il faut être logique avec soi-même. Mais personne dans ce mouvement-là a pris le fait écologique autour de ça. Quoi.
Alors quand même, il faut quand même le remarquer. Si dans la manif pour tous, en tout cas, c'est pas la majeure partie des manifestants. Non, mais on a vu ce qui était rare dans des manifestations catholiques de droite, des banderoles sur notre corps n'est pas un marchandise, une certaine réflexion dans certaines revues, je pense à la Nef ou à ce fameux Gaudier Bosseberg dont je vous parle depuis le début de l'émission, il y a eu un petit effort. Mais moi je pense que les milieux, alors Éléments est à part parce que nous sommes une élite autour de cette revue merveilleuse, mais les milieux catholiques je pense sont surtout malheureusement prisonniers de leur sociologie. C'est qu'à un moment donné les milieux catholiques restent des milieux très bourgeois et ils ont tous, même quand ils font l'effort de penser la décroissance, ils ont tous un cousin qui travaille dans l'industrie, un père cadre dynamique, etc. Donc ils sont prisonniers de leur sociologie et je pense qu'à un moment donné il faudra qu'ils rompent clairement aussi avec les ambiguïtés de cette sociologie. Est-ce que c'est cette sociologie les empêche de penser la décroissance, l'écologie jusqu'au bout, pour reprendre le titre du texte d'Alain de Benoît?
Mais c'est vraiment un problème fondamental parce que vous apercevez que même en effet parmi les gens que ça intéresse, il y a ce problème sociologique, parce que vous pouvez faire une conférence sur le thème. Les gens sont en effet des gens qui sont attachés à la préservation de notre patrimoine, de notre terre. En effet, ils comprennent que on est en train de détruire, de salir ce pays, etc. Ça les intéresse. Et après, vous faites un tour de table et vous leur demandez ce qu'ils font. Et ils sont, les trois quarts sont en école de commerce ou en marketing ou étudient le marketing. C'est-à-dire des parcours universitaires qui les conduisent à être les futurs agents de la destruction de ce à quoi ils sont attachés. Et là c'est on a parlé tout à l'heure de la schizophrénie de gauche, mais là il y a la schizophrénie de droite, quoi. C'est-à-dire que on veut un monde, on prétend vouloir un monde, on va dire traditionnel, plutôt conservateur, et on travaille à tout ce qui le détruit, c'est parce que ça rapporte plus d'argent. Un jour, il faudra quand même se poser de vraies questions. Et les choix de professionnels sont très importants dans ce domaine-là, parce qu'on peut lire tous les livres sur la décroissance qu'on veut. Si on travaille comme publicitaire ou comme banquier, il y a un problème. Mais ça, c'est pas encore prise de conscience dans nos milieux. On en est encore loin.
Il n'est pas rare d'ailleurs de rencontrer des admirateurs de Jean de la Varande, merveilleux Jean de la Varande, et qui en même temps, oui, en effet, travaillent dans la banque ou travaillent dans les travaux publics et détruisent cette Normandie que chante la Varande.
Il faut surtout pas donner l'impression de donner des leçons aux gens.
Mais non, c'est pas la question.
C'est difficile. Ouais. C'est difficile pour tout le monde. Chacun essaie de s'en sortir comme il peut, ouais, etc. D'accord. Mais quand on a, je veux dire, il y a quand même des gammes de métiers. Il y a quand même beaucoup de métiers. On n'est pas obligé d'être dans les pires. Et donc, c'est vraiment juste d'inviter les gens à réfléchir à ce qui est important pour eux et à demander si leur vie et leur choix professionnel et leur choix d'activité est conforme et compatible avec. C'est juste ça. Et Dieu sait que c'est difficile parce qu'on a tous du mal à notre niveau, je pense, à aller vers cette cohérence, mais ça doit être le but recherché quand on souhaite avoir une pensée politique. Mais évidemment que c'est difficile, évidemment que il ne s'agit pas de distribuer des bons points et des mauvais points, mais cette réflexion doit être au cœur des préoccupations de tout militant qui a en effet pris conscience des problématiques. Parce qu'on n'en sortira pas par le haut, par un coup de baguette magique. Il faut que chacun, à son niveau, agisse. Même si, évidemment, il y a besoin d'un discours politique global. Voilà.
Est-ce que on s'est aperçu que le Front de Gauche avait tenté Mélenchon, vous le disiez, François Bousquet, qui fait partie encore de ces derniers politiques qui ont une culture politique, a essayé de faire une sorte de mélange entre son idée républicaine, ses idées des Lumières et l'écologie. Ça a été un peu compliqué, pas très bien marché. Est-ce que le gros problème, c'est qu'en fait l'électorat, je dirais le plus populaire, se désintéresse totalement de ce champ de...
Oui, on s'en sort pas du problème. Hein. Je je pense que ce que disait Xavier, si on, c'est Xavier Aymand, là, si on demande aux gens de pas être banquier, de pas être publicitaire, on a déjà du mal à porter le message écologique. Hein. Et si en plus on met ce prérequis initial hein, d'être cohérent avec que nos modes de vie soient cohérents avec nos idées. Je crains que l'écologie reste de toujours à la marge. Hein. Alors sur Mélenchon, bah Mélenchon, c'est Mélenchon, il fait le grand écart entre la Chine populaire et son électorat, enfin dans lequel il y a un peu de Besançon, il y a un peu de tout. Mais c'est un électorat qui est très volatile. Hein. Il est passé de Bérou à Besançon pour s'arrêter.
Parfois Le Pen, d'ailleurs, aussi.
Parfois Le Pen.
Mais il a malheureusement pour lui, il a le socle du Parti communiste qui fait qu'il l'empêche de.
Voilà, mais qui est résiduel. Hein. C'est du municipalisme, et c'est des féodalités départementales. Hein. Je pense que le gros du corps électoral, c'est plutôt les Verts, Europe Écologie Les Verts. Hein. Vous parliez tout à l'heure de Ozon. Ozon, enfin, un personnage intéressant dans l'écologie, c'est Wechter. Dans le paysage écologique français, depuis 20 à 30 ans, un des maîtres de Wechter, c'est Hénard. Hein. Hénard, qui était un naturaliste suisse, graveur, dessinateur, qui plaidait pour une nature sauvage. Hein. Mais on l'a cassé, puisqu'il avait fait de mémoire. Hein. Ozon avait fait un débat avec Latouche. Je pense avec Wechter, je ne vais pas dire de bêtises, et avec Teddy Goldsmith. Hein. Mmh. Et évidemment, la touche Wechter n'avait pas résisté à la compagnie d'Alain Benoît, donc on n'en sort pas.
Wechter qui avait fait des scores plus qu'honorables, c'est lui qui a fait décoller les
c'est
Verts.
Il a fait 10% aux Européennes, hein. Mais sachant qu'aux Européennes, les Verts ont toujours fait de très gros scores. Donc,
Wechter d'ailleurs qui est à Europe Écologie, il faut le noter aujourd'hui. Hein, il s'est rallié à Europe Écologie, mais d'ailleurs c'est un des rares, je crois, représentants d'Europe Écologie à être passé sur Radio Courtoisie, puisqu'il avait donné un entretien à notre ami Arnaud Guyojana, ce qui prouve qu'il, même malgré s'il s'est rallié à Europe Écologie, il garde son indépendance intellectuelle au moins. Mais aujourd'hui, Wechter, malheureusement, il a disparu de la scène politique.
Hein. Il a disparu, il est en Alsace, je crois. Moi, je pensais qu'il était toujours au mouvement écologique indépendant, qui est son mouvement, mais qui fait des scores tellement marginaux.
En plus, Wechter a fait quand même le meilleur clip de campagne de tous les temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il était interviewé par quelqu'un déguisé en loutre. C'était un grand moment de télévision. Rien que pour ça, il mérite qu'on se souvienne de lui.
Moi, je reviens à mon obsession en préparant l'émission, c'est l'échec, hein, m'interroger personnellement sur l'échec de l'écologie. Quelles résistances rencontre l'écologie des résistances anthropologiques très profondes, hein. Qu'est-ce qui fait que le message écologique ne passe pas? Manifestement, il ne passe pas. Raison pour laquelle, je le redis, mais si on met des prérequis, il passera encore moins. Quoi. Donc, il faut que le filtre laisse passer le plus de gens possible. Hein. Mais quels sont les résistances profondes? Est-ce que c'est notre volonté de puissance? Est-ce que c'est notre voracité? Est-ce que c'est le fait que nous passions d'un modèle économique de pénurie sur lequel l'humanité a vécu depuis la nuit des temps à un modèle d'abondance, qu'on ne sait pas gérer l'abondance, on ne sait pas la gérer physiologiquement, la preuve en est par l'obésité, on ne sait pas la gérer économiquement, on ne sait pas la gérer écologiquement. Qu'est-ce qui résiste chez l'individu? Alors certes, nous sommes schizophrènes. Si j'interviens pas sur la question de la mise en cohérence, c'est que nous sommes tous schizophrènes. On n'échappera pas à la schizophrénie. C'est notre monde est schizophrène. Notre monde fabrique des identités multiples. Français, européen, je suis l'homme de mon entreprise, je suis l'homme de mon parti, de ma revue. De partout, je suis assailli par des assignations et des sommations à être quelque chose. Donc ça, il faut le considérer comme acquis. C'est la pathologie de notre temps. Le 19e était névrotique, notre époque est psychotique. Hein. C'est du schizo. Donc, mais quels sont les... je ne sais pas si Xavier Aymand et Olivier François partagent mon interrogation, mais on s'intéresse tous à la décroissance depuis 10 ans, c'est quand même atterrant de voir à quel point la décroissance n'a pas décollé.
Je vous interromps. C'est aussi le fait qu'il y a une grande amnésie, c'est-à-dire que en quelques années, on a perdu des modes d'être, des capacités d'autonomie, etc. Qu'avait encore ma grand-mère, par exemple. Moi, je sais que ma grand-mère, enfin, je vais pas faire encore quelque chose d'autobiographique, mais nos grands-parents.
grands-parents, nos grands-parents avaient des usages, savaient comment, planter un jardin. Olivier, il y avait des jardins ouvriers à Paris.
Comment se fait-il que, certes, hein, mais c'est,
parce que c'est quel...
mais on ne leur a pas imposé aux gens. On le leur a imposé et puis
ils,
non, comment se fait-il? Interrogeons.
C'est un oubli aussi des luttes. On a un oubli des luttes. Il y a un livre récent qui est paru sur les 30 Glorieuses, qui s'appelle Une autre histoire des 30 Glorieuses, qui est notre ami Pierre Le Vigan, d'ailleurs, avait chroniqué, je crois, sur le Métablog, qui est une histoire, en fait, méconnue, puisqu'au fond, on parle des 30 Glorieuses, ça a été la société d'abondance, merveilleuse, les gens tout d'un coup qui avaient, et qui allaient au supermarché, qui avaient leur frigidaire, etc. Mais cette société ne s'est pas imposée sans résistance. Et c'était pas simplement une résistance d'intellectuels marginaux ou de solitaires, je pense à Lanza del Vasto, mais c'était aussi une résistance populaire qui, quand, dans certains cas, on imposait une centrale nucléaire ou un barrage ou un autoroute ou un supermarché qui venait tout d'un coup rompre et briser des modes de vie.
Je pense que
la croissance, c'est en effet, enfin la société de croissance, François, c'est en effet imposée par la séduction et par la servitude volontaire des gens qui ont été séduits. En effet, en plus, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu une séduction pour cette société abondance, mais c'est aussi imposé par la force, par une politique, la politique.
Il y a une très large réécriture de l'histoire là dans ce que tu évoques, sur le demi-siècle qui vient de s'écouler. Alors il y a eu la guerre, la reconstruction, les Trente Glorieuses, préalablement le plan Marshall, hein, et puis l'effondrement du modèle agricole dont je parlais au début, avec le maréchal paysan a tué pour 50 ans ce qui était une écologie informelle dans les campagnes, ce qu'on construit pas une restauration sur une défaite.
Disait Simone Veil d'ailleurs.
Ouais, pour autant, non. Moi, on a tous la même histoire, et tous les Français, tous les auditeurs, on partage notre histoire. Elle se fait en trois générations, l'histoire. C'est les grands-parents ne transmettent pas la ferme aux enfants. Les enfants viennent en ville, hein, sans diplôme, et les petits-enfants, nous en l'occurrence, pour les meilleurs, font polytechnique normal, et les autres font des universitaires.
Hein. Mais François,
c'est le modèle. Non, c'est moi.
Je suis désolé, mais il y a quand même des crises importantes dans l'histoire récente de la France qui montrent qu'il y a eu des résistances à cette société de croissance absolue. Ne serait-ce que par exemple le poujadisme. Le poujadisme n'a pas été rien. Et si le poujadisme, malgré toutes ses ambiguïtés, la complexité de ce mouvement, était aussi une réaction à un modèle de croissance, de supermarché, de centralisation, enfin pas de centralisation, de développement d'une société hyper, de l'hyper, c'est intéressant quand même. On peut pas dire que le poujadisme n'a pas été un mouvement marginal.
Non, je suis très sensible à la question du poujadisme.
Ça n'a pas été un mouvement marginal.
Ah non, en aucun cas. Pour autant, avec beaucoup d'ambiguïté. Énormément d'ambiguïté,
un feu de paille,
mais comme toutes la plupart des protestations populaires, ce qu'on appelait l'ancien régime,
elles ont existé, je pense
qu'elles sont malgré tout marginales, parce qu'elles passent à côté, le discours que tu tiens, elles passent à côté de racines anthropologiques très profondes.
Je pense qu'il ne faut quand même pas minimiser la puissance des forces d'imposition de ce modèle. Que ça corresponde à certaines penchants de la nature, mais on les a quand même très très largement encouragés. Quand vous êtes confronté à 300-400 messages publicitaires par jour dès le berceau, ça façonne votre anthropologie d'une certaine façon. Quand à l'école, les profs d'économie ne vous apprennent qu'une vision de l'économie. Quand, par exemple, justement, vous parliez des maisons qu'on ne peut plus transmettre, mais c'est pas que les gens veulent plus avoir de maison de famille. Enfin, il y en a peut-être qui veulent plus avoir de maison de famille, mais c'est aussi parce qu'il y a une fiscalité qui est faite en sorte que les gens ne puissent plus conserver ces maisons de famille. Il y a aussi des éléments extérieurs. C'est pas que des choix individuels. Il y a quand même toute une infrastructure qui est faite pour aller dans ce sens-là.
Je suis en désaccord avec ce que tu dis. C'est oublier que quand tu passes de DVC dans la cause de l'absence de DVC ou tout à l'égout, quand tu passes à l'eau chaude, hein, quand tu achètes, toutes nos familles sont passées par là. Il suffit d'aller dans les campagnes.
C'est pas le débat, François. Le débat, c'est pas de revenir à faire pipi au fond du jardin.
Je parle du basculement. Je parle de l'acculturation qui est entretenue, mais qui est aussi consentie. Il ne faut pas déresponsabiliser les gens. Il y a un mirage d'abondance qui s'est présenté à eux. Alors certes, pour le cas français, l'exode rural a été très très, très tardif. Hein. Chez nos voisins allemands et anglais, il s'était fait au XVIIIe siècle, hein, au début de la révolution industrielle. Nous, il s'est fait dans le milieu des, juste après la guerre. Hein. Pour autant, enfin,
n'avait pas fait en sorte que les paysans ne sont pas volontairement tirés une balle dans le pied. Ils ont été encouragés quand même par ce système bancaire qui leur a prêté énormément d'argent pour les vassaliser et pour qu'il y ait moins besoin de main d'œuvre et pour accentuer ce départ. C'est des choses qui ont été organisées volontairement. C'est
évident. Enfin, c'est ouais.
Et puis ils ont été achetés.
Voilà, on est
Mais justement, c'est intéressant parce que le problème peut-être de l'écologie, c'est qu'ils ne pensent pas l'État. Ils ne pensent pas puissance. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on parle d'écologie, et même et la caricature du parti écologique est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de chef, il n'y a personne pour rassurer cette population en leur donnant un modèle. C'est-à-dire que quand vous leur demandez ce qu'ils pensent, ils sont en règle générale, la patrie c'est pas vraiment leur chose. Ils sont européens, mais enfin il n'y a pas vraiment une idée de frontière. C'est-à-dire que ils font un peu peur les écologistes. On a l'impression qu'on va être dans un état où chacun, par exemple on pourrait retrouver ça même au 19e siècle. Quelqu'un comme Henri David Thoreau qui a été un peu le maître à penser de quelqu'un comme José Bové, mais a été lu par Gandhi, par Luther King, etc. Et quelqu'un qui est plutôt une tendance, c'est le recours aux forêts, c'est-à-dire qu'il refuse la société qui est autour de lui.
Ça c'est un des problèmes de l'écologie.
Et c'est le problème
fondamental de l'écologie, je pense. Les deux tentations de l'écologie, c'est les tentations utopiques, on veut être pur. Si on est pur, on est seul. Hein. C'est la différence entre la secte et la religion. La secte en demande beaucoup à peu de gens. Et la religion peu à beaucoup de gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux demander peu à beaucoup de gens. J'aime beaucoup le Walden de Thoreau, qui est un livre. C'est une merveille. Hein, c'est une merveille d'écriture. Et pour autant, c'est pour ça que je suis embarrassé avec le recours aux forêts. Il y a deux modèles utopiques dans l'écologie. C'est deux tentations. C'est des fuites hors du social. Hein. Et ça passe par la forêt. C'est le recours aux forêts que choisit Junger un temps et que choisit Walden. Mais l'autre recours, c'est l'insularité. C'est le modèle de l'utopia de Thomas More. Hein. Il y a une fuite hors du social de l'écologie. Donc les écologistes doivent se garder sur la question du chef. Il y a une terreur, il faut assister à une assemblée écologique parce que c'est vraiment l'univers fait pour murer. Quoi. C'est une cacophonie, la démocratie directe aboutit à une cacophonie complète. Hein. Il y a des prises de parole qui peuvent durer des demi-heures. Hein, on découpe des cheveux, des poils de fesses en 4, en 8, en 10. Hein, refus du chef, refus de l'autorité. Et c'est toutes les pathologies héritées de 68. Hein. Comment s'en débarrasser Ramu dit que la nature est à droite, c'est d'abord parce que...
Elle hiérarchise.
Voilà, il y a l'hiérarchise, hein, elle discrimine. Hein.
Il y a un texte sur les écueils de l'écologie. Il y a un texte qu'il faut relire qui vient d'être édité par Parangon. C'est le Feu vert de Bernard Charbonneau. Où il analyse très bien tout cela. C'est-à-dire que Charbonneau, qui venait des milieux du non-conformisme des années 30, qui est d'ailleurs de sensibilité plutôt anarchisante, comme son camarade Jacques Ellul se méfiait beaucoup du politique moderne. Hein, il insiste là-dessus, mais ne rejette pas pour autant l'autorité, la nécessité de parler au peuple aussi, tout simplement. Alors lui, Charbonneau était de quelque chose d'une tradition proudhonienne, donc il s'oppose aux politiques modernes, mais il ne renie pas la nécessité d'agir, d'avoir un chef, de prendre des décisions, enfin d'avoir un chef, d'avoir une autorité, pour prendre une décision à un moment donné.
Voilà, et puis de se réinscrire dans l'espace politique. On est d'abord et avant tout des animaux sociaux, donc des animaux politiques. Hein. L'espace de la délibération, il est forcément public. Hein. Donc on peut pas, il faut
À mon avis, si je cite le texte de Charbonneau, donc ce Feu vert, réédité aux éditions Paragon, c'est qu'il arrive à s'équilibrer entre le refus utopiste et hippie, si je puis dire, du politique et aussi la politique politicienne ou la politique moderne qui pense que tout vient d'un chef providentiel, etc.
Moi, je pense que ça non plus, l'écologie peut pas en faire l'économie. Elle en fait l'économie. C'est que nous prêchons le localisme. ça a heurté, ça va peut-être vous heurter, mais je donne souvent la comparaison des planificateurs, des pères du plan. Les pères du plan avaient le titre d'un livre qu'ils avaient écrit, c'était plusieurs. Hein. Donc c'était avant De Gaulle et Pompidou. Mais enfin, De Gaulle et Pompidou vont donner du relief encore plus. C'est programmer la croissance. Hein.
Parce que c'est,
programmer la croissance.
Peut-être l'espérance, mais c'est possible.
Enfin, programmer l'espérance,
c'est terrifiant. Parce que certaines choses doivent partir du haut. Il faut qu'il y ait aussi un élan étatique. Hein. Je pense qu'il faut évidemment la décroissance l'appliquer chacun à notre niveau, comme on le disait, dans nos modes de vie. On doit être guidé par une quête de cohérence, hein, mais on doit être aidé. On doit être aidé par l'impôt, par mille moyens dont dispose le législateur. Hein. Donc elle doit aussi venir d'en haut,
Alors vous êtes sur Radio Courtoisie et nous sommes en train de parler de savoir si l'écologie est-elle encore de gauche. En tout cas, nous pensons qu'elle n'est pas non plus de droite. Avec dans le studio Olivier François, François Bousquet, Xavier Aimant. Justement sur ces grands penseurs de l'écologie, les Français on a un peu parlé de Serge Latouche. Sur la décroissance, mais on le voit peu. Médiatiquement, c'est pas des gens qui sont qui ont beaucoup de charisme, qui sont à la télévision, qui y a pas beaucoup d'intellectuels qui se disent il y a pas là un BHL, j'ai envie de caricaturer, il y a pas un BHL écologiste. Tout le monde est un peu écologiste
depuis l'année du monde. Depuis le commandant Cousteau pour le grand public, ouais. Hein, depuis Cousteau,
oui, Cousteau
était en plus un écologiste là pour le coup
de droite, on peut le dire.
De droite.
Ouais, mais
Cousteau la famille, mais lui aussi
un peu fréquenté pendant la mais oui, c'était la personnage.
J'ai en tête Pierre Rabhi, mais je crains qu'il soit pas connu de.
Il est très connu, mais malheureusement Pierre Rabhi, même s'il peut dire des choses intéressantes, est en voie de normalisation. Ouais. Et ça devient presque un personnage de bisounours pour la télévision.
Non, au pire,
les ménagères de moins de 50 ans, je sais pas comment.
Ne pas arriver politiquement, intellectuellement, vu la richesse du sujet, il aurait dû avoir quelques intellectuels qui aujourd'hui et les noms que vous donnez, élus, etc., sont des gens maintenant qui, voilà, ils sont plus là. Personne n'a remplacé une pensée écologiste intellectuelle, quoi.
J'essaye, voilà, c'est une colle, hein.
On les connaît pas aussi parce que personne ne les invite médiatiquement. C'est le même problème que pour les penseurs de, on va dire, la droite radicale,
etc. Enfin, même quand on est dans des milieux où on s'intéresse à ce genre de sujet, on trouve très peu de gens qui pensent.
L'historique sont morts. Donc, en effet, Le Charbonneau, Gore, Silich, il y a beaucoup de morts.
Il faut voir qu'Illich, dans les années 70, avait un succès énorme. Enfin, la convivialité était commentée dans les pages à la fois d'Esprit, donc c'est pas n'importe quelle revue, et aussi du Monde, de l'Observateur, etc. Gortz, pareil. Illich, à partir de 82, il disparaît complètement. Lui-même était d'ailleurs assez misanthrope, se réfugie dans ses études médiévales. Aujourd'hui, médiatiquement, en effet, mais il faut quand même remarquer, même s'ils sont morts, que Ellul, maintenant, est présent dans toutes les librairies, ce qui n'était pas le cas en France, en tout cas, il y a 15 ans. Latouche est quand même publié chez Fayard, mais ça touche en effet un public plutôt intellectuel, assez pas marginaux, mais
et pour autant mais il s'est noyé
minoritaire, je pense qu'il y a surtout plus de vraies personnalités médiatiques qui portent l'écologie. René Dumont était invité et faisait débat.
Aujourd'hui, si on regarde par exemple du côté de la gauche, hein, du côté du mouvement socialiste, quelqu'un comme Michéa, qui est le succès d'un Michéa, il n'y a pas d'équivalent du côté de l'écologie. Alors que alors qu'il y a pas mal de points communs, on pourrait retrouver, que ce soit chez Orwell, où on en avait parlé, Olivier François, sur des gens comme Edward Thompson qui avait critiqué la société capitaliste, il n'y a personne du côté de l'écologie.
Il y a des gens intéressants, c'est vraiment l'esprit de l'escalier, et puis je suis sûr que
sera le plateau.
Ouais, mais oui, j'ai en tête. Mais alors évidemment, il est pas aussi lu que Michéa, et je crains que, comme il a été un peu pour des raisons de crypto-lepénisme un petit peu renvoyé dans les cordes, c'est Hervé Juvin. La Grande Séparation est un frise le chef-d'œuvre. Enfin, le chef-d'œuvre, je m'entends dans un genre très particulier qui est laissé à la française. Hein, dans ce genre-là, bien défini, bien prédéfini, c'est une petite merveille. Hein. Et il fournit, moi, je trouve, un élément central pour penser l'écologie, parce qu'on a besoin de repères. Hein. C'est la distinction qu'il opère entre deux archétypes, hein, le colon et l'indigène. Hein. Et je trouve que cette comparaison est très juste. Je l'explique. Hein. C'est que nous, Français, sommes des indigènes. Hein. Nous, enracinés, sommes des indigènes. Hein. Qu'est-ce que fait l'indigène ? L'indigène, il est usufruitier de sa terre. Donc, il l'a reçue, il va la transmettre. Hein. Le colon est dans une démarche différente. Le colon étant, dans l'esprit de Juvin, mais dans le mien également, plutôt l'américain. Le colon, il va sur une terre, il exploite, il la jette et il va après sur autre chose. Fondamentalement, une fois qu'on aura détruit l'Afrique, l'Europe, etc., une fois qu'on aura détruit le monde, la vision du colon, c'est on va coloniser l'espace. Hein. Après tout, pourquoi pas ? Donc, je pense que Juvin, alors c'est des succès librairie, ça, la touche.
La touche, hein. La touche a plus de succès que Juvin.
Rabi, oui, c'est sûr.
Rabi, c'est un gros succès de librairie.
Ah non, Rabi, oui, il est publié par Albin Michel, c'est
Actes Sud.
Alors Rabi, un des problèmes, les gens le connaissent peu ou pas, ou mal, hein, il est... C'est un produit hybride, Rabi, de géniteur juif et musulman, lui-même est catholique, en tout cas chrétien. Il s'est installé en Ardèche, offert de ma part, hein, et il fait de la culture bio depuis 30 à 40 ans. Et il a dans un créneau de l'écologie qui marche bien, en effet, en librairie, mais qui est à mi-chemin de la spiritualité, type bouddhisme, etc., et écologie. Donc c'est un peu, on les laisse de côté. Mais sur Juvin n'est, pas assez lu ou trop peu lu, de toute évidence, même s'il est publié par le débat chez Gallimard. Hein. Pour autant, moi, je trouve que le dernier bouquin, La Grande Séparation, est vraiment lumineux.
Et peut-être l'un des seuls à parler de l'humain et de l'immigration.
Et de la question de migratoire, de l'écologie humaine. Hein, L'Église en parle, mais l'Église est embarrassée parce que depuis Saint-Paul, elle a du mal à faire la séparation entre moi et l'autre. Hein. Donc, lui en parle, met les pieds dans le plat, et il s'est fait rappeler à l'ordre très brutalement par le système médiatique. Hein.
Xavier Aymon sur le sujet.
Moi, je continue à penser qu'en effet, les quelques qui existent ne sont pas connus parce qu'ils sont ostracisés de façon presque aussi importante que les méchants d'extrême droite. Parce que pour le coup, c'est une vraie pensée contestataire du système. C'est pas de la guimauve, etc. C'est quelque chose que le système ne peut pas accepter. Que quelqu'un remette en cause l'idée de la croissance, c'est insupportable. Donc on ne les voit pas, donc on ne les connaît pas, puisqu'aujourd'hui on ne peut quasiment pas vivre quand on est un intellectuel ou un écrivain en dehors du système médiatique, parce que c'est une vraie pensée, encore une fois, de rupture et révolutionnaire. Et évidemment, le système n'a aucun intérêt à encourager ces gens-là, mais ils existent. Il n'y a pas non plus beaucoup de philosophes, de penseurs marxistes à l'heure actuelle de premier plan qui ont, vous voyez,
Salon à droite quand même l'évolution du Front National, qui a d'ailleurs aujourd'hui comme conseiller écologique un certain Pierre Mureur, qui n'est pas un décroissant, mais qui est dans un parti politique, c'est un ancien élève de Jacques Sapir, mais qui a avancé des bonnes idées. Je pense qu'il a une bonne influence. Par exemple, Marine Le Pen a pris position contre le gaz de schiste.
Oui, non, c'est nouveau.
Très nouveau, et ce qui est plutôt de bon sens.
J'ai souvenir à l'époque du Grenelle, je crois, de l'environnement, d'un colloque du Front National sur la persécution des automobilistes,
hein,
sur lequel le Front National a beaucoup communiqué, et totalement oublieux de ce qu'avait été le Front National à l'époque de Maigret, de la revue Identité. J'ai en tête, je trouve que les écrivains, les romanciers sont presque plus intéressants sur la dimension écologique que les essayistes et les penseurs, parce qu'ils le sont depuis très longtemps. Giono, Ramu,
Vincenot,
Les yeux en face des trous. Alors, je le pour les auditeurs, sur la question des gaz de schiste, Les yeux en face des trous est un chef-d'œuvre prémonitoire.
Et d'ailleurs, c'est un livre alors qui est cité comme dans la fameuse histoire, qui est d'abord un très beau livre de Vincenot, Les yeux en face des trous, et qui est cité dans cette fameuse histoire des Trente Glorieuses. Et dans Les yeux en face des trous, on a un livre sur les Trente Glorieuses aussi, et sur la fin d'une certaine, campagne française.
Ouais, rappelez-vous, si je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, pour les lecteurs, Les yeux en face des trous, c'est Vincenot, c'est le père de la Bourgogne, donc c'est la Bourgogne, il est très attaché à son pays.
Et sur l'extraction.
Et alors c'est une compagnie pétrolière qui s'installe à la fin des années 50 en Bourgogne, hein, et qui massacre le paysage. Tous les paysans s'empressent de vendre leurs terres, hein, aux compagnies pétrolières. Excuse-moi, Xavier, d'insister. Mais simplement, il suffit de remplacer pétrole par gaz de schiste, hein. Et donc, et deux ou trois mots dans le corps du texte, c'est la problématique des gaz de schiste telle qu'elle se pose à nous. Simplement, aujourd'hui, on a une sensibilité, alors évidemment, elle est marginale, hein, mais qui elle l'est moins que dans les années 50, hein, à la protection des paysages, etc. Mais j'ai en tête, alors c'est toujours l'esprit de l'escalier, mais c'est la littérature qui, je parlais de Giono, de Ramu, on parlait de Vincenot, mais Renaud Camus. Camus a des positions écologiques plutôt intéressantes, hein, sur une base esthétique au départ.
Oui, sur la destruction des campagnes françaises, des villages.
Ce qu'il appelle la banlieuisation.
La banlieuisation.
L'enlaidissement du monde, hein, qui nous frappe tous.
La ripolinasie. Je ne vais pas le prononcer. En effet, Renaud Camus.
Je veux dire, c'est tous ces gens-là, au fond, ont une dimension d'écologie informelle, puisque l'écologie n'était pas encore.
Notre ami Olivier Molin, parmi les écrivains contemporains.
Molin. Olivier Molin, on peut dire, mais Olivier Molin, vu qu'il est, la dernière fois, il est passé à une émission où il parlait du populisme, on considérait ses livres comme du populisme, on peut aussi considérer. C'est intéressant votre débat sur Vincenot, parce que peut-être là où l'écologie a un peu marché, c'est dans tout ce qui est mouvement régionaliste. C'est souvent une base, et les gens sont beaucoup plus sensibles parce que c'est leur propre terre, leur propre territoire. On l'a vu en Corse, on l'a vu en Bretagne, etc. À chaque fois qu'il y a
dans les pays d'oc, hein. Plus maintenant parce que ça a été un peu pourri par l'idéologie de 68, hein. Mais pour autant, en effet,
en Bretagne, les premières luttes antinucléaires, en Bretagne des années 70 sont des luttes qui sont faites par des régionalistes souvent.
Mais on en revient à l'angle mort des Verts, hein. C'est dès qu'il y a enracinement, il y a écologie. Donc, si les Verts veulent que l'écologie, leur message porte, il faut qu'ils le réenracinent.
Parce que ça correspond, là je vais faire une aparté, le mouvement, par exemple, nationaliste corse, en dehors de faits culturels, a commencé en 1972-71, où des bateaux italiens d'une grande entreprise italienne vidaient leurs produits chimiques juste devant les côtes corses. Et ce bateau a sauté. Et c'est le premier acte politique qui a été fait en Corse parce qu'on était en train de les polluer. Donc c'est souvent parce que ça concerne directement leur terre que les gens là se sentent... C'est le problème peut-être dans l'écologie du problème du climat. C'est-à-dire que quand on leur explique qu'il va y avoir des grandes catastrophes, ça n'intéresse personne. Ça ne les correspond pas.
C'est encore trop longtemps.
Vous avez entendu parler de Gorin.
Oui, mais je pense aussi qu'il y a... je voudrais juste revenir un instant sur la question des forces d'imposition. Parce que... Pour revenir sur cette idée d'échec de l'écologie, c'est aussi, par exemple, lorsque la gauche radicale s'intéresse vraiment à des questions écologiques, là, la répression de l'État est extrêmement forte et extrêmement violente. Alors que lorsqu'elle s'intéresse à d'autres sujets, on la laisse beaucoup plus faire. Donc on voit bien aussi qu'il y a une volonté de l'État de casser ces mouvements-là, et donc évidemment, quand vous risquez de vous faire tuer pour... quand vous faites, par exemple, en Italie, c'est très significatif. Quand l'extrême-gauche s'attaque à la ligne de chemin de fer à haute vitesse, la ligne du TAV, elle a une répression par la police extrêmement, extrêmement forte. Donc, elle préfère faire de l'antifascisme folklorique, et voilà. Donc, il y a aussi... Moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait qu'il faille minimiser cette volonté étatique, et je ne crois pas que les gens soient anthropologiquement et ontologiquement condamnés à être complices de ce système. On voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a quand même une certaine prise de conscience. On voit bien que les gens aujourd'hui sont attachés aux choses de la terre. On voit bien ce qui marche à la télévision, c'est toujours le plus beau village de France. comment faire le pain à l'ancienne, etc. Ça existe, ce sentiment.
Non, c'est évident,
profondément
c'est,
aussi dans
je pense pas que nous soyons condamnés. On est condamnés. Les lois physiques peuvent nous condamner, pas les lois morales. Je veux dire, elles sont réversibles par définition. Les lois physiques, non. Hein. L'entropie nous apprend qu'on rentre dans l'irréversible. Hein. Moi, je pense que pour l'heure, on traverse une phase de mutation brutale, hein, d'acculturation foudroyante, hein, et d'amnésie, en conséquence d'amnésie. Alors, l'imaginaire paysan est très fort en France. Je pense que c'est le pays européen où l'imaginaire paysan est le plus fort. Hein. Pour une raison historique évidente, c'est que de tous les pays industrialisés, on est le plus tardivement le pays le plus tardif en termes de désertification. Cela étant, pour te répondre, Xavier, il suffit de prendre le solde migratoire entre les villes et les campagnes. Certes, on nourrit un imaginaire paysan, la foire le salon de l'agriculture. Il y a deux grands événements en France, je trouve, le Tour de France et la foire de la Porte de Versailles. C'est un événement pour les familles. Hein. Mais c'est d'autant plus un événement parce que les gens ne savent qu'ils n'iront plus à la campagne.
Mais est-ce que c'est pas en train d'un peu de s'inverser, ça?
Non,
la
ruralité, c'est la diagonale du ville est en train de s'étendre. Ce que les géographes appellent la diagonale du ville des Ardennes aux Pyrénées, je vivant en province, non. Par définition, il y a quelques arrivants, mais les populations sont vieillissantes. Hein. Le solde est toujours négatif. Il n'y a pas de travail. C'est la France de Guy Louis.
Je pense que l'écologie vaut aussi pour la défense d'une certaine ville traditionnelle. Il ne faut pas oublier la ville contre sa gentrification.
Oui.
On peut penser d'ailleurs que des luttes auxquelles avait participé Michéa d'ailleurs à Montpellier dans les années 80 contre la gentrification justement de certains quartiers populaires, pour moi font partie aussi d'un combat écologique.
Mais c'est pas possible dans ces villes tentaculaires
il y aurait toute une réflexion à mener
sur l'écologie urbaine, bien sûr.
Mais sur la présence de la nature aussi en ville.
Oui, mais sinon on ne s'adresse plus qu'à 20% si on ne parle pas de...
Il est intéressant de s'apercevoir sur la reformation des régions, les écologistes sont complètement absents. Je suis incapable de savoir ce qu'ils pensent exactement, alors que là aussi, c'est quand même un effet...
On est en train de détricoter la France, on dira ce qu'on voudra, département. J'écarte la question de la Bretagne et de l'Alsace, les Bretons et les Alsaciens se défendent. Mais pour le reste, c'est en dépit du bon sens, il y a des barons. La province est verrouillée par des baronnies locales.
Ça, paradoxalement, d'ailleurs, c'est un effet de la décentralisation mitterrandienne.
C'est-à-dire qu'au lieu de
décentraliser pour redonner au peuple et aux autorités réellement locales des pouvoirs, on l'a donné à des baronnies qui sont de nouveaux seigneurs au pire sens du terme.
Sans aucune connaissance des territoires, ce qui est après tout qu'un élu parisien ou qu'un élu national une connaissance faible des territoires, pourquoi pas. Mais là, qu'au conseil régional, on n'a aucune idée. Si je parle de Vincenot, je vivant en Bourgogne, à Dijon, c'est vivant dans l'Yonne, on est des zombies, on est des étrangers, on est des Belges, au fond. Ils savent pas du tout qui nous sommes, hein. C'est un autre sujet.
Non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est sur cette histoire de territoire, les Verts auraient dû être là et, qu'ils soient contre ou pour, mais ils ont rien à dire. C'est des sujets qui les intéressent pas. J'ai l'impression que le local, ça, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Effectivement, ils arrivent à avoir des villes comme Grenoble, qui est à un niveau de pollution catastrophique, donc avec une alliance. Mais en fait, sur le plan local, ils n'existent pas.
C'est le paradoxe parce que Olivier évoquait la gentrification, la boboisation des centres-villes. Hein. C'est que en même temps, c'est dans ces centres-villes que Europe Écologie Les Verts fait ses scores historiques les plus importants. C'est un des paradoxes un de plus de l'écologie politique. Hein.
On le voit aussi dans les confrontations entre agriculteurs ou éleveurs et bobos descendants de Paris sur les histoires de l'ours, du loup, etc.
En fait, barrage de Sivas aussi. Parce que dans le Tarn, il faut parler avec les habitants pour voir leur perception du barrage. Elle est tout à fait différente
pas Notre-Dame-des-Landes, c'est un cas différent.
Les populations ont une perception radicalement différente du barrage. Hein.
Oui, les agriculteurs, surtout qu'on a...
Les populations.
Même les agriculteurs concernés, qui avaient été présentés comme des agriculteurs qui faisaient de l'agriculture intensive, etc. C'est beaucoup moins simple que ça. Donc il y a eu aussi beaucoup de propagande du côté des anti-barrages. Et le problème, en effet, plus complexe qu'il pourrait y paraître au premier abord. Mais là aussi, on voit quand même que la répression policière, elle est musclée sur ce genre de sujet. la manif pour tous, c'est plein de quelques coups de matraque et quelques gazages. Là, il y a quand même du lourd. Hein. Enfin, en même temps, il y a du lourd en face aussi. C'est une bonne guerre, on va dire. Ouais.
Il nous reste à peine 10 minutes. Je vais faire peut-être un tour de table. Si pour vous le livre important à lire sur le plan, c'est vraiment toujours des questions idiotes, mais je suis sûr que vous allez pouvoir me répondre. L'auteur qu'il faut lire pour commencer sur l'écologie. L'auteur vraiment qui vous a fait découvrir l'écologie.
Moi, je citerai toujours Bernard Charbonneau, d'abord parce que c'est un merveilleux écrivain. C'est un écologiste qui n'est pas un écologiste, même si on le classe parfois par l'écologie radicale, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui défend aussi la civilisation humaine, qui ne tombe pas dans un espèce d'anti-humanisme, moi qui peut parfois m'effrayer. Et Charbonneau, en plus, est un critique aussi d'une certaine idéologie écologique que je trouve tout à fait intéressante. Et j'aurais à citer peut-être un livre de Bernard Charbonneau, c'est qui avait été publié chez Gallimard en 1969, puis réédité par l'Encyclopédie des Nuisances, c'est Le Jardin de Babylone, qui est une réflexion à la fois sur l'idée de nature et une critique de la manière dont la nature, à partir des années 60, a été traitée par les différents pouvoirs et par la nouvelle civilisation après 45, la nouvelle civilisation post-industrielle après 45. Donc je dirais Bernard Charbonneau, mais il y a évidemment Ellul, Günther Anders. Enfin, il y aurait beaucoup de gens à citer, mais je m'arrêterai sur Bernard Charbonneau pour ce soir.
Donc vous avez eu quelques minutes pour réfléchir, François.
Oui, alors c'est la question. Il y a tellement de livres vers.
On peut en donner plusieurs.
Alors pour compléter Olivier et m'en tenir au registre de la fiction, pour qu'il y ait un équilibre. Hein. Vincenot, déjà cité, Les yeux en face des trous, vraiment c'est le roman de ce qu'il appelle les années de colère. Hein. C'est une merveille. C'est un livre de vieux Gaulois. Mmh. Rouspéter, qui rappelle ce qu'ont été nos ancêtres et les fait revivre à travers ce livre.
C'est une critique de la ville, les yeux devant les trous, par un paysan.
Ah oui,
et quand il arrive dans cette ville où il y a déjà la question de l'immigration.
Alors Vincenot, sur la question du féminisme, la question de l'immigration, la question de la race, c'est pour lui c'est pas un mot tabou, donc il l'emploie tel quel, comme Hénard. C'est la question des espèces et de. Alors Vincenot, Giono, bien sûr.
La richesse, on peut citer ce merveilleux pamphlet du Giono écologiste.
Ouais, mais de tous les Giono, le dernier. Moi, j'ai en tête Jean-Marie Le Pen citant l'homme qui plantait des arbres sur. Elzéliard Bouvier, ou Elzéliard Bouvier, qui est une nouvelle qui a une histoire et un destin merveilleux, puisque c'est une nouvelle sans droit d'auteur, hein, où Giono invite. Invente un personnage qui plante des arbres, hein, et ça a donné lieu à des programmes de plantation un peu partout dans le monde. Hein. Ramu, puisqu'on parle, enfin quantité de livres, moi, surtout les écrivains. Bernanos, Ramu, Peggy et Vincenot.
Des éléments.
Moi, je vais citer déjà un qui m'a beaucoup marqué, c'est celui d'Alain Benoît, Demain la décroissance, qui, je pense, est vraiment une synthèse remarquable. C'est comme toujours les ouvrages d'Alain Benoît, c'est à la fois profond et accessible, et c'est vraiment pour moi une très bonne approche pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ce sujet important.
Très bien, bah écoutez, il nous reste une poignée de secondes. Je voudrais simplement, ça tombe bien parce qu'il y a la revue Rébellion, le numéro 67, novembre-décembre, où vous avez une brève histoire de l'écologie politique, où tout le monde, tous les gens bien sont concernés. Je vois que Alain de Benoît est cité, donc ça doit être formidable. L'écologie politique comme phénomène révolutionnaire. Donc je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore lu. C'est le numéro 67, novembre-décembre, de Rébellion. D'éléments sur le système pour le comprendre, pour le combattre, et puis la littérature insoumise est toujours en kiosque, le numéro 153. Il y aura un énorme numéro pour la prochaine fois, nous vous le promettons, et puis on retrouvera à ce moment-là nos deux acolytes pour l'actualité européenne. Voilà, on se retrouve, il nous reste deux minutes, si vous avez un coup de cœur, quelque chose à dire, un message personnel.
François?
Non, ouais, on l'a évoqué, Moulin. Un accès facile, populaire, drôle à l'écologie. Les derniers romans de Moulin.
Pour nos amis,
en particulier un qui je trouve le chef-d'œuvre de Moulin, Les Lumières du ciel.
Les Lumières du ciel.
À la fois poujadiste, populiste, écologique et décroissant.
Et pour nos amis catholiques, Nos limites de Gauthier Pestebert, qui est un excellent.
Voilà, je pense que si personne ne vous a entendu le dire, je pense que voilà. C'est fait,
troisième fois
dans l'émission, vous avez bien raison. On se retrouve dans 4 semaines pour une prochaine émission. D'ici là, écoutez toujours Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't
always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit. When you look at it, life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
It's available in the foyer. Some of us might live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He changed his man within 3 weeks. What do you think pays for this rubbish? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, I'll never make that money back.